lui s'est converti à la règle des 3% de déficit budgétaire, une petite révolution dont nous parlera Guillaume Tabar à 8h10. Bon réveil sur Radio Classique.
Chaque heure compte. Passez à l'action avec Bougardier. Des financements sur mesure pour les audacieux, de l'hypothèque à la fiducie sûreté. Et c'est sur bougardier.fr.
Nous sommes le vendredi 13 juin et il est 7h.
7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et Virginie Fulpin pour le journal. Bonjour Virginie.
Bonjour David, bonjour à tous. La nuit où tout s'est embrasé au Moyen-Orient, Israël a frappé des sites militaires et nucléaires en Iran. Deux hauts responsables iraniens sont morts. L'Iran promet une réponse forte. Envoyer la garde nationale pour réprimer les manifestations à Los Angeles est illégal. C'est un juge fédéral américain qui désavoue Donald Trump. Et puis tout faire pour former plus de médecins. Le ministre de la Santé, Yannick Noder, annonce la fin du numerus apertus pour les étudiants en médecine.
Après le journal, l'éditorial d'Étienne Lefebvre, suivi des Voix de l'économie avec François Monnier, directeur de la rédaction du magazine Investir. Israël a frappé l'Iran cette nuit.
Les États-Unis avaient appelé le gouvernement israélien à la retenue et quelques heures plus tard, vers 2h du matin, heure française, Israël a frappé une première fois l'Iran. Des frappes préventives contre des sites nucléaires et militaires iraniens, d'après Benjamin Netanyahou. Le début d'une nuit où tout s'est emballé, Pierre Pilet.
Oui, alors ce qu'on sait, c'est que l'une des principales usines d'enrichissement d'uranium de l'Iran, celle de Natanz, dans le centre du pays, a été frappée plusieurs fois. C'est ce qu'affirme la télévision d'État iranienne et ce que confirme l'Agence internationale de l'énergie atomique. Toujours, selon la télévision d'État iranienne, trois sites militaires ont été frappés dans le nord-ouest du pays, ainsi que la capitale Téhéran, au moins 50 personnes blessées. Et le chef d'état-major iranien a été tué. D'après plusieurs agences de presse iraniennes, le chef des gardiens de la révolution est mort, lui aussi. Des flammes et de la fumée sont visibles dans le quartier général de cette armée d'élite du régime. L'armée israélienne indique que ses avions de chasse ont frappé des dizaines de cibles militaires, y compris des cibles nucléaires dans différentes régions de l'Iran. Le premier ministre de l'État hébreu, Benjamin Netanyahou, affirme que ces frappes ont été couronnées de succès et que cette opération va durer autant de jours que nécessaire, opération appelée Lion dressé. Le porte-parole de l'état-major des forces armées de l'Iran réagit en disant qu'Israël va payer un lourd tribut et doit s'attendre à une réponse forte. Israël qui a fermé son espace aérien, l'Iran a fait pareil, l'Irak aussi.
Merci Pierre Pilet. Alors est-ce qu'on est aux portes d'une guerre plus large dans la région? La question se pose forcément ce matin et on l'a posée au géopolitologue Frédéric Ancel.
C'est le tournant. Pourquoi je vous dis ça? Parce que jamais Netanyahou n'a été aussi solennel. Jamais il n'a annoncé autant de temps et sans doute de jours, peut-être même de semaines, de difficultés pour la population israélienne. Ensuite, il a mentionné le risque de Shoah. Bon, ça, c'est pas nouveau. Mais puis, concrètement, sur le terrain, réussir à abattre en même temps le chef des gardiens de la Révolution et puis frapper le site fondamentalement important de Natanz, hein, qui est finalement le plus ancien, le principal site d'enrichissement d'uranium en Iran, et plusieurs dizaines d'autres sites en même temps. Si vous voulez, tout ça m'indique que, sans aucun doute, on est parti pour un conflit, alors seulement bilatéral, parce que je ne crois pas du tout à une extension de la guerre dans la région, mais qui mettra fin au processus de nucléarisation militaire de l'Iran.
Frédéric Ancel répondait à Éric Mauban. Il parle d'une guerre bilatérale, pas de conflit plus étendu, ce qui lui donnerait raison avec son livre « La guerre mondiale n'aura pas lieu » aux éditions Odile Jacob. Donald Trump va réunir son Conseil de sécurité nationale cet après-midi. Il avait été prévenu à l'avance des frappes israéliennes, c'est ce qu'il a dit sur Fox News il y a quelques instants. Mais l'Iran prévient que les Américains seront tenus pour responsables des conséquences des frappes israéliennes. Les États-Unis veulent maintenir les négociations prévues dimanche avec l'Iran sur le nucléaire. Israël, de son côté, dit avoir des renseignements qui montrent que l'Iran s'approche du point de non-retour pour son programme nucléaire. Ces frappes israéliennes contre l'Iran ont déjà des conséquences sur les cours du pétrole. Le prix du Brent en hausse de 12% ce matin, une hausse mécanique en raison des craintes d'un conflit plus large au Moyen-Orient et de perturbations majeures pour l'approvisionnement. Une nuit difficile pour Donald Trump. Un juge fédéral estime que l'envoi de la garde nationale pour réprimer les manifestations à Los Angeles est illégal. L'administration Trump dénonce une ingérence extraordinaire. Les manifestations contre la politique migratoire du président américain s'étendent à de nombreuses villes du pays, de Seattle à New York. Pour Amy Porter, porte-parole des démocrates américains en France, ça n'a rien d'étonnant de voir les manifestations se multiplier.
les gens qui ont voté pour Donald Trump. Ils pensaient qu'ils votaient pour expulser les criminels. Et en fait, ils récupèrent des gens qui sont aux États-Unis depuis 10, 20, voire 30 ans, qui font partie de ces municipalités. Donc les gens disent, mais ça, c'est ma voisine. Je ne savais pas qu'il allait expulser la dame qui travaille au restaurant que je connais depuis 20 ans et dont les enfants sont à l'école avec mes enfants. Les gens commencent à se rendre compte. Je ne sais même pas si on peut appeler ça des manifestations. C'est des gens qui descendent dans la rue avec leurs petits panneaux qui disent arrêtez les expulsions. C'est vraiment pas dans la culture des Américains de faire ça. Donc quand ça se passe, c'est que c'est vraiment très important.
Des propos recueillis par Marc Tédé. Au moins 265 morts après le crash d'un Boeing d'Air India. Hier, l'avion s'est écrasé juste après son décollage de l'aéroport d'Ahmedabad dans le nord-ouest de l'Inde.
Une quatrième nuit de violence raciste en Irlande du Nord.
Tout est parti de la ville de Ballymena, là où deux adolescents d'origine roumaine ont été inculpés pour une tentative de viol sur une jeune fille au début de la semaine. C'est ce qui a déclenché les émeutes avec des commerces, des habitations attaquées, des actes clairement racistes. Tiffaine Dubuard.
Sur les façades de certaines habitations, les drapeaux britanniques s'accompagnent de cette inscription. Ici vivent des locaux, dans l'espoir d'être épargnés. Car depuis lundi, ce sont principalement des quartiers d'immigrés qui sont pris pour cible par les manifestants. À Ballymena, une famille philippine a notamment dû fuir sa maison, touchée par des jets d'explosifs. Parmi les émeutiers, de nombreux loyalistes, ces Irlandais favorables à l'union entre l'Irlande du Nord et le Royaume-Uni. Depuis la fin de la guerre civile, ils se disent victimes d'un déclassement, un ressentiment dirigé contre les étrangers, analyse Fabrice Mourlon, professeur de civilisation irlandaise.
Les loyalistes, ils ont l'impression d'être en bas de l'échelle sociale. Il y a vraiment ce sentiment d'avoir perdu sur tous les plans. C'est vraiment une attitude de rejet parce que identitairement, ils se sentent menacés, économiquement ils se sentent menacés.
Une colère aussi entretenue par certains groupes paramilitaires. Ces factions loyalistes armées continuent d'être à la manœuvre dans l'ombre, estime Michel Savaric, enseignant-chercheur spécialiste de l'Irlande du Nord.
C'est une manière de maintenir leur contrôle social sur les communautés. Elles montrent aussi leur puissance. Elles peuvent comme ça défier la police, l'État, en organisant des émeutes très violentes juste d'un claquement de doigts.
De la même manière, s'ils le décident, ces groupes pourraient instantanément mettre fin aux violences, estime le spécialiste.
Le Sénat retoque la proposition de loi Zucman, le texte qui voulait instaurer un impôt plancher sur le patrimoine des plus riches. Le ministre de la Santé, Yannick Noether, annonce la fin du numerus apertus qui définit le nombre d'étudiants en deuxième année de médecine en fonction des capacités de chaque université. Le président du syndicat des internes en médecine générale, Bastien Bailleul, trouve l'idée positive, mais il alerte sur les capacités d'accueil des stagiaires.
Dès maintenant, avec le nombre d'étudiants qu'on a, on a des stages qui sont saturés, notamment en externe, des étudiants de la 4e à la 6e année de médecine. Certains, on leur propose de venir qu'une semaine sur deux. C'est aussi beaucoup parce qu'on force les étudiants à aller se former dans les gros centres hospitaliers et universitaires, alors qu'on a plein d'autres centres hospitaliers qui accueillent déjà des externes, dont on pourrait ouvrir leurs portes pour qu'ils en accueillent encore plus. Et puis, en fait, il n'y a pas que l'hôpital où on peut apprendre la médecine. Aujourd'hui, la majorité de la médecine est exercée en ville, dans les cabinets. Et je pense qu'on peut aller inciter les médecins en ville à accueillir des étudiants, à devenir maître de stage, pour permettre aussi aux étudiants de découvrir leur futur exercice.
Des propos recueillis par Chloé Sénard.
À tout à l'heure, Virginie. 8h pour d'autres informations. Dans un instant, l'éditorial de l'économie avec Étienne Lefebvre.
Chez vous ou en voiture, améliorez votre expérience d'écoute de la radio grâce au DAB+. Bénéficiez d'une qualité sonore exceptionnelle et d'informations plus complètes sur la programmation musicale de votre radio. Plongez au cœur de vos programmes préférés en qualité numérique. Une offre de radio enrichie, gratuite et sans connexion Internet. Les radios vous accompagnent en haute définition grâce à la technologie DAB+. Plus d'informations sur ensemble-pour-le-dab+.fr.
Radio Classique. Vous êtes bien avec Radio Classique.
Rouler en électrique ou hybride? Ok. Avec la qualité allemande? Évidemment. Et sans dépasser son budget? Toujours. Avec Opel, vous cochez toutes les cases. Pendant les portes ouvertes, Opel vous offre jusqu'à 8000 euros d'avantages clients sur une sélection de véhicules disponibles immédiatement. Alors n'attendez plus, rendez-vous chez votre concessionnaire Opel. 8000 euros se composant d'une remise sur le prix d'une Opel Astra hybride rechargeable neuve et d'une prime reprise. Offre à particulier sur véhicules en stock jusqu'au 24 juin dans le réseau participant. Détails sur opel.fr. Pensez à covoiturer.
Les Étoiles du Classique à Saint-Germain-en-Laye reviennent pour une quatrième édition éclatante et pleine de découvertes.
le plus grand tremplin solidaire d'Île-de-France invite 200 jeunes talents pour 10 concerts inédits. Symphonique, jeune public, musique de chambre et de grandes soirées thématiques autour de la voix, du piano, du violon, de la musique baroque et du jazz. Découvrez les futures grandes stars de demain du 22 au 30 juin. Réservé sur lesétoilesduclassique.fr.
Avec Chelo Tango, Ophélie Gaillard nous entraîne au cœur de l'Argentine et fait danser son violoncelle au rythme du tango. Entourée de musiciens d'exception, elle explore avec passion les mille couleurs de cette musique envoûtante, revisitant les classiques de Piazzolla ou Ginastera et dévoilant des trésors méconnus. Chelo Tango, un voyage vibrant et intemporel, par Ophélie Gaillard, un album aparté.
Dans les années 60, la France construisait un avenir plus ouvert. Révolution musicale, conquête spatiale, émancipation des femmes. En 2025, Renault remet la liberté sur la route avec nouvelle Renault 4. Design emblématique, habitabilité légendaire, désormais 100% électrique et ultra connecté. Découvrez Renault 4 E-Tech électrique, borne de recharge offerte. Portes ouvertes du 12 au 16 juin. Valeur borne 990€ hors taxe, hors installation pour forfait borne plus installation. Offre particulière du 1er au 30 juin. Conditions Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et à 7h10, on retrouve Étienne Lefebvre pour l'éditorial avec Les Échos. Bonjour Étienne.
Bonjour David.
Je crois qu'il existe un chemin vers un accord sur les retraites, a assuré hier François Bayrou. Le Premier ministre a-t-il de bonnes raisons d'y croire ?
Eh oui, depuis 48 heures, la donne a changé au sein du conclave sur les retraites avec de réels espoirs de fumée blanche la semaine prochaine. L'avant-dernière séance de négociation hier a confirmé que le patronat et les syndicats visaient un accord, même si le suspense demeure. Alors pourquoi ce changement d'atmosphère ? Eh bien c'est le MEDEF qui a débloqué les choses en faisant une ouverture sur la pénibilité. Il s'agit de prendre en compte les trois facteurs les plus répandus que sont le port de charges lourdes, les postures pénibles et les vibrations. Un combat de 10 ans de la CFDT. De quoi convaincre le premier syndicat de ne plus exiger un retour en arrière sur les 64 ans. D'autant que le patronat se dit aussi prêt à améliorer le calcul de la pension des femmes et à faciliter les départs pour invalidité. En résumé, il s'agit de corriger certains défauts de la réforme de 2023 et non plus de la détricoter. Il aura fallu du temps pour que les syndicats commencent à atterrir.
Et tout n'est pas réglé pour autant.
Il reste une longue séance mardi et beaucoup de sujets à régler en effet. Sur les droits que vont occasionner les facteurs de pénibilité, d'abord le diable est dans les détails et puis surtout sur le bouclage de l'accord. Rappelons que le déficit est attendu à plus de 6 milliards en 2030, malgré le passage aux 64 ans, et les mesures envisagées vont alourdir l'addition. Alors, pour réduire les dépenses, un tour de vis est évoqué sur les départs anticipés au titre des carrières longues, peut-être aussi sur le cumul emploi-retraite, mais c'est surtout la mise à contribution des retraités qui pourrait résoudre l'équation, sachant qu'à la fin, ce sont le gouvernement et le Parlement qui décideront. Il faut aussi que les syndicats abandonnent leur revendication d'une hausse des cotisations qui nuirait à l'économie. Bref, tout n'est pas encore gagné.
C'était Étienne Lefebvre pour l'éditorial avec Les Échos qui font la une ce matin sur le crash d'Air India. Terrible drame humain qui n'est pas sans répercussion pour le constructeur Boeing. À suivre l'invité de Stéphane Pedrazzi, mais il est 7h13. Voici l'essentiel de l'économie. À la une ce matin, les marchés financiers redoutent un embrasement au Moyen-Orient avec des conséquences majeures sur l'économie mondiale. Les cours du pétrole ont grimpé de 12% cette nuit après les bombardements israéliens sur les installations nucléaires iraniennes. L'inquiétude fait également grimper les cours de l'or, valeur refuge par excellence. L'once d'or a frôlé cette nuit la barre des 3 400 $. 11% de hausse en l'espace d'un an. Les grandes puissances nucléaires ont nettement augmenté leurs investissements l'an dernier. Elles ont dépensé plus de 100 milliards de dollars pour maintenir, moderniser, mais aussi pour créer de nouvelles armes nucléaires. Le chiffre est publié ce matin dans le rapport annuel de l'ICAN sur la prolifération des armes nucléaires. Pour la première fois depuis 4 ans, les comptes de l'assurance chômage repassent dans le rouge. L'UNEDIC prévoit un déficit de 700 millions d'euros pour 2025 et 2026, et ce malgré le durcissement des règles d'indemnisation des demandeurs d'emploi.
Vous n'êtes pas encore totalement prêt pour le 100% électrique ? Découvrez Kia Niro Hybrid, le crossover familial et économe en carburant. Et jusqu'au 30 juin, profitez-en immédiatement à partir de 297 euros par mois sans apport.
Kia Niro Motion Hybrid hors option. LLD 49 mois, 40 000 km. 49 loyers de 297 euros TTC, hors assurance et prestations facultatives. Offre aux particuliers si accord Kia Finance. Garantie 7 ans. Conditions sur kia.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Kia. Du mouvement vers l'inspiration.
Les Arts Florissants et William Christie vous donnent rendez-vous sur grand écran. Redécouvrez l'opéra de Handel, Ario Dante, comme vous ne l'avez jamais vu, au Grand Rex, le plus mythique des cinémas de Paris. Une projection exceptionnelle en partenariat avec la Philharmonie de Paris, en présence de William Christie et de l'équipe du film, le 30 juin à 19h30. Vivez une expérience unique et conviviale au plus près de la musique et de l'émotion. Réservez sur art-florissant.org.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
7h15, les voix de l'économie.
Avec Fortuneo, la banque qui va vous faire aimer les chiffres. Fortuneo, j'aime ma banque.
Stéphane, votre invité ce matin, le directeur de la rédaction du magazine Investir.
Bonjour François Monnier.
Bonjour Stéphane.
Bienvenue sur Radio Classique. Les marchés financiers en Europe se dirigent vers une ouverture en baisse ce matin après les bombardements israéliens cette nuit en Iran.
Oui, effectivement, la surprise, elle est totale, puisqu'on observait depuis quelques jours quand même un rapprochement, en tout cas des négociations qui étaient entamées par les États-Unis pour se échanger sur le dossier nucléaire avec les Iraniens. Et là, cette attaque massive change complètement la donne. Et donc, on a pour l'instant des indicateurs qui montrent que Wall Street et le CAC 40 devraient ouvrir en baisse. La réaction la plus forte, bien sûr, immédiatement, ce sont les cours du pétrole. Cette nuit, les cours du pétrole ont bondi de 12% parce qu'on avait beaucoup d'investisseurs qui spéculaient plutôt sur une baisse du fait notamment de ces négociations en cours prévues. Et il y a notamment une réunion qui était attendue entre les États-Unis et l'Iran ce dimanche. Et donc, bien sûr, on a des positions qui ont été débouclées. Et là, on a un cours du Brent qui progresse de 8% à 75 dollars. On a là aussi, logiquement, une réaction sur le cours de l'or. L'or, ça reste une valeur refuge dans un contexte géopolitique dégradé. On n'arrête pas de dire que c'est une relique barbare, comme l'appelle Keynes. Et là, on a un cours de l'or qui progresse de 1 à 2%, qui a franchi les 3400 dollars, qui s'oriente tout doucement vers les 3500 dollars. Et on sait que c'est une tendance plutôt longue, et les cours de l'or devraient continuer à progresser. Maintenant, il faut voir que cette réaction, elle est à chaud. Et ce qu'il faut surtout observer, c'est quelle va être la riposte de l'Iran. Est-ce qu'on aura une riposte plutôt symbolique ? C'est ce qui a été observé au cours des derniers mois, derniers trimestres, lorsqu'il y avait des tensions entre l'Irak, entre Israël et l'Iran, ou plutôt une riposte extrêmement forte. Donc il faut être extrêmement vigilant. Tout peut changer dans les minutes, dans les heures, voire dans les jours.
En tout cas, ça confirme ce que vous nous disiez il y a quelques semaines à ce même micro. Les cours du pétrole sont vraiment imprévisibles.
Ils sont imprévisibles car ils dépendent fortement de la géopolitique et pas uniquement de la loi classique de l'offre et de la demande et en lien avec la croissance économique. Et là, on a un très bel exemple.
Cette remontée des cours du pétrole va probablement être au centre des discussions du Salon du Bourget qui ouvre ses portes lundi.
Oui, on a un Salon du Bourget qui va accueillir quand même 2400 exposants, 48 pays, 85 des 100 plus grandes entreprises de défense et d'aéronautique. Donc il sera beaucoup question de militaires. On le sait, déjà en nombre de délégations institutionnelles, gouvernements, forces d'armée, eh bien on attend deux fois plus de monde que d'habitude. On est dans un contexte où on assiste à un réarmement. Il y a quelques jours, début juin, les membres de l'OTAN se sont mis d'accord pour bâtir une alliance encore plus forte, avec comme objectif de consacrer 5% du PIB à la défense, 3,5% exactement à la défense pure, et 1,5% du PIB à la sécurité, aux infrastructures. Et pour y arriver, concrètement, c'est quand même 1 000 milliards de dépenses supplémentaires à honorer d'ici 5 ou 10 ans, avec un objectif qui sera affiné dans quelques jours, le 24 ou le 25 juin, pour voir exactement où on manque de capacité aujourd'hui au sein des membres de l'OTAN. Donc l'OTAN se réarme, on a une Union européenne qui est prête aussi à faire une entorse au pacte de stabilité et à accepter qu'il y ait des déficits en son sein si ces investissements dans le domaine de la défense sont faits auprès d'équipementiers européens. On estime qu'il faut 65% de la valeur ajoutée concrètement auprès du matériel européen. Donc on voit que ça bouge, on voit qu'on assiste à un réarmement. Ça va être extrêmement long. on peut assimiler cette course à l'armement un peu à la course dans le domaine de l'IA. Sauf que l'IA, c'est fait avec des entreprises privées. Et là, ça va très très vite. Là aussi, on est sur des centaines de milliards d'euros. Dans la défense, c'est la même chose, sauf que ce sont les États, et les États ont beaucoup de dettes, donc ça prend du temps. Mais c'est une méga tendance, et il faut surtout revoir toute la chaîne de logistique et de production. Dans l'Union européenne, on a 17 types de chars, on a 20 types d'avions de combat, 20 types d'avions de combat dans l'Union européenne, alors qu'il y a un seul avion de combat aux États-Unis. Donc on voit qu'il faut revoir toute la chaîne logistique.
Est-ce que ça veut dire que les valeurs de la défense vont sans doute continuer de progresser sur les marchés ?
Oui, indéniablement, la hausse des valeurs de défense n'est pas terminée, loin de là, même si on assiste, comme dans le domaine de la tech, à un formidable rallye. Si on prend un exemple, c'est Rheinmetall. Rheinmetall, en l'espace de 3 ans, eh bien son action elle a été multipliée par 20. Si on regarde les valeurs de défense en Europe depuis le début de l'année, on assiste à une hausse de 60%. Donc l'engouement, il est là. Les valorisations sont élevées, mais comme on change de paradigme, on ne peut pas comparer avec les valorisations d'il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, où on pensait que la paix était quasiment éternelle. Là, on voit qu'on est dans un contexte géopolitique qui est compliqué, avec l'Ukraine, avec Taïwan, avec le Proche-Orient. Alors bien sûr, si à court terme, on avait un cessez-le-feu en Ukraine, il y aurait bien sûr des investisseurs qui prendraient leurs bénéfices sur les valeurs de défense. On estime qu'un cessez-le-feu pourrait faire baisser ces valeurs de défense de près de 10 à 15%. Mais on est sur une tendance extrêmement longue, des carnets de commandes qui ne cessent de croître. Et on sait que les dépenses, on a une visibilité quasiment sur 10 ans. Et il n'y a pas beaucoup de secteurs qui offrent une telle visibilité. Et symbole pour refléter cet engouement pour les valeurs de défense, eh bien le 20 juin, dans l'Eurostock 50, qui représente les 50 plus grandes et belles valeurs européennes, eh bien Rheinmetall va prendre la place de Kering, et on voit que les valeurs de défense sont de plus en plus présentes, et donc Rheinmetall va rejoindre Airbus et Safran.
Merci beaucoup, François Monnier, directeur de la rédaction du magazine Investir.
Merci à tous les deux, Stéphane, à lundi, pour l'essentiel de l'économie dans la matinale. À suivre, Karine Dijoux, et si on parlait français ? Bonjour Karine.
Bonjour David.
Aujourd'hui, les questions des auditeurs, ils sont de plus en plus nombreux à vous écrire sur radioclassique.fr et sur votre compte Instagram, évidemment, où 400 000 internautes vous suivent quotidiennement. Jean-Paul de Grenoble nous écrit ceci. J'entends souvent dire « ça s'empire », alors que j'aurais dit « ça empire ». J'ai donc un doute et je m'en remets à vous, chère Karine.
Eh bien, Jean-Paul a raison. Ah. La forme pronominale du verbe « empirer » n'existe plus aujourd'hui. Elle est considérée comme littéraire dans certains dictionnaires, mais c'est parce qu'elle relève de la langue classique. Elle existait jusqu'au 19e siècle, puis elle a disparu. On dira donc la situation a encore empiré et non pas s'est empiré. Alors pourquoi cette confusion ? Eh bien, c'est certainement sous l'influence de la forme s'aggraver qui, elle, existe bel et bien.
Marianne de Merlébain demande « Pourriez-vous nous expliquer, Karine, l'origine de « ban » B-A-N, dans l'expression « mettre au banc de la société » J'ai trouvé ce mot dans un jeu fléché et j'ai cherché un long moment. »
Oui, mettre quelqu'un au banc de la société, c'est le déclarer indigne et le dénoncer au mépris public. Mais il ne faut pas confondre cette mise au banc de la société avec le banc des accusés, qui lui prend un C final. Le terme « ban » B-A-N, a deux sens principaux. Le premier désigne une proclamation publique au Moyen-Âge. Le ban était proclamé par le suzerain et jusqu'au XIXe siècle, on battait le ban des récoltes ou des vendanges, c'est-à-dire qu'on publiait le jour de leur ouverture. Au pluriel, on parle de ban, B-A-N-S, de mariage, pour désigner l'annonce publique d'un mariage.
Et quel est le deuxième sens de ban ?
Son deuxième sens a pour idée dominante celle de l'exclusion par décision d'une autorité. C'est ce sens qui est présent dans l'expression « mettre au ban de la société ». Mais on peut mettre aussi une personne au ban d'un pays, d'une localité ou d'un territoire. Ce mot vient du francique ban, B-A-N, attesté sous la forme banus ou banum en latin médiéval depuis le VIe siècle. Il désignait alors l'amende infligée à cause d'un délit contre le pouvoir public. Enfin, le mot ban, B-A-N-C, avec un C final, vient lui du germanique banque, avec un K, par l'intermédiaire du latin vulgaire, on en revient toujours au latin, bancalis, coussin, où l'on s'assoit.
Effectivement, les bancs publics, c'est plus du tout des coussins aujourd'hui. Hein. On se retrouve lundi, Karine.
À lundi.
De prime abord, personne ne déprime à l'idée de recevoir une prime. En prime, une prime, c'est une bonne nouvelle.
En ce moment, chez Nissan, la très bonne nouvelle, c'est la prime à l'hybride jusqu'à 7000 euros. Oui, 7000 euros. Pendant les jours hybrides Nissan, ne manquez pas cette prime exceptionnelle sur tous les crossovers hybrides Nissan Juke, Qashqai et X-Trail. Rendez-vous vite en concession Nissan pour en profiter.
Nissan.
Remis jusqu'à 4000 euros sur Juke Hybrid, 5000 euros sur Qashqai et 7000 euros sur X-Trail 9, identifié en stock jusqu'au 30 juin par rapport au prix au 1er mars. Détail Nissan.fr. Pensez à covoiturer.
Carrefour.
Quand vous me dites les boissons végétales Bjorg, eh ben le matin dans mon café, le soir dans mes lasagnes et entre deux dans mon gâteau pour la fête des pères. Ça tombe bien, pour deux boissons végétales Bjorg bio achetées, la troisième est offerte et c'est valable sur toutes les boissons végétales Bjorg bio. Alors rendez-vous jusqu'à dimanche chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive.
Carrefour, on a tous droit au meilleur.
Selon disponibilité en magasin, panachage possible, la remise s'applique sur le moins cher. Détails sur carrefour.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Voyage en Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 km de paysage, un seul plein et zéro recharge. Le moteur s'adapte entre thermique ou électrique pour 1100 souvenirs. Nouveau Renault Austral Full Hybrid E-Tech dès 400 euros par mois. 2 mois de loyer offert. Portes ouvertes du 12 au 16 juin. Renault, numéro 1 de l'hybride en France.
Austral Evolution Full Hybrid 200 euros option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 5000 euros. Troisième et quatrième loyer offert. SIA Cordiaque. Offre à particulier du 12 au 16 juin. Numéro 1 des ventes depuis 2024. Source 3 à date à mai 2025. Voir Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
La Fondation Orange fait vibrer la musique et les voix sur tous les territoires. Pour découvrir les actions de la Fondation Orange pour la culture, rendez-vous chaque mardi et jeudi à 14h59 sur Radio Classique.
À suivre la cohabitation Bayrou-Macron, c'est les coulisses de la politique.
Audi, sans compromis. En ce moment, le meilleur du design et de la technologie Audi hybride rechargeable est plus accessible que jamais. Jusqu'au 30 juin, découvrez la nouvelle A5 Avent ou encore la nouvelle A3 Sportback à partir de 390 euros par mois sans apport. Et profitez de son autonomie totale de plus de 900 km. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre en LLD réservée aux particuliers sur 37 mois et 30 000 km dans le réseau participant sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et Marcelo Westfred du Parisien aujourd'hui en France. Bonjour Marcelo.
Bonjour David.
François Bayrou passe aujourd'hui le cap des 6 mois à Matignon. Depuis le 13 décembre, il forme avec Emmanuel Macron un tandem inédit à la tête de l'État.
Oui David, on était habitué à voir des collaborations ou des cohabitations. Là, on a ce qu'on pourrait qualifier de colocation au sommet de l'État. Chacun vit sa vie. La preuve, ce qui s'est passé ce mardi. À 20h, François Bayrou s'exprime sur TF1, un journal télévisé. Il annonce qu'on ne pourra plus vendre de couteaux aux mineurs. C'était après le drame de Nogent. Le président, au même moment, se trouve à Nice, le sommet des océans. Il termine une réunion avec un dirigeant du Costa Rica et se dirige ensuite tranquillement vers le plateau de France 2 pour une émission sur l'environnement. Il n'a pas le temps d'écouter son premier ministre. À son tour d'être interviewé devant les caméras, Macron annonce, lui, la fin des réseaux dans quelques mois, des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. En coulisses, le président est furieux de voir que son Premier ministre s'exprime en même temps que lui. Un proche du chef de l'État s'étrangle. Deux interviews en même temps, ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de la 5e.
Ils ne se coordonnent pas, François Bayrou et le président, ils n'ont pas leur 06 respectif.
Ils l'ont, mais leurs équipes se parlent très peu. François Bayrou assure pourtant qu'il respecte les prérogatives du président. Il n'empiète pas, c'est vrai, sur l'international ni sur la défense. Et en Conseil des ministres, il laisse tout l'espace au président. Son entourage résume la situation en disant que c'est une coopération entre eux, que François Bayrou est l'allié le plus fidèle, mais aussi, ils ajoutent, le plus indépendant. Et cette indépendance, David, elle se manifeste en ce moment sur la question du budget. L'Élysée n'a pas la moindre idée de ce que François Bayrou mijote. Le plan de 40 milliards d'économies, le président ne l'a pas vu, lui qui habituellement fait et défait les budgets dans son bureau. Pire, François Bayrou pousse l'idée d'organiser un référendum sur les finances publiques, ce qui ulcère à nouveau Emmanuel Macron. C'est sa prérogative.
Alors, ce tandem peut-il tenir ?
Les deux hommes ont l'habitude d'avoir une relation en dents de scie depuis qu'ils ont fait alliance en 2017. Ils ne sont pas amis, mais ont des intérêts en commun. Beaucoup de marcheurs pensent qu'Emmanuel Macron attend maintenant que son Premier ministre, qui lui a tordu le bras il y a 6 mois pour Matignon, je le rappelle, soit renversé pour nommer à sa place Sébastien Lecornu, ministre des Armées. C'est un fidèle, pas démangé, lui, par des envies d'autonomie. Le président trouve aussi que son Premier ministre ne lance pas assez de chantiers, ça ne va pas assez vite. Un confident de Bayrou préfère en sourire et nous glisse cette remarque. L'histoire de Macron avec ses premiers ministres, ça a toujours été de les nommer pour ensuite les pilonner.
Les coulisses de la politique, Marcelo Westfred. À lundi, Marcelo. Tout de suite, le temps.
Charles Bonner, bonjour.
Bonjour David.
Une journée très ensoleillée et surtout très chaude.
Soleil et chaleur au programme, mais également orage avec 17 départements. Vigilance orange sur la Bretagne, l'Île-de-France et le Sud-Ouest. Les températures jusqu'à 32 à Lille, 32 à Toulouse et 35 à Lyon.
Les entreprises engagées en action avec Delville Management, cabinet de management de transition, Fabrice Lundy.
Hervé Belaïche est le président de Catland, le leader français des croisières en catamaran haut de gamme avec équipage tout inclus. Une petite vingtaine de navires qu'on va retrouver dans les Antilles, la Méditerranée, les Seychelles. Ça sent l'été, Hervé Belaïche.
Ce dont je suis fier, c'est cet éloge de la lenteur qui, à sa manière, est un engagement fort contre un monde qui va trop vite. On répond à une envie profonde des clients de ralentir, de se recentrer, de se ressourcer. Notre promesse, c'est finalement de voyager moins, mais de voyager mieux, de voyager à moins, 12 personnes à bord, mais avec du sens. On réinvente un nouveau tourisme. Aujourd'hui, on permet en fait aux clients de venir à bord, de contempler la mer, de se reconnecter à la nature, de voyager vers les autres, finalement peut-être aussi d'aller à la rencontre de soi. C'est peut-être ça, une nouvelle forme de tourisme.
L'engagement d'Hervé Belaïche, le président des croisières Catland.
Delville Management, cabinet engagé de management de transition, vous accompagne dans les enjeux stratégiques de vos transformations.
7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et Charles Bonner pour le journal de 7h30.
Avec à la une ce matin, Israël lance son opération Lion dressé, des frappes sur l'Iran, sur ses installations militaires et nucléaires. Les chefs des gardiens de la révolution et le chef d'état-major sont morts. L'Iran lance une centaine de drones vers Israël. En France, les syndicats sont prêts à renoncer aux 62 ans pour trouver un accord sur les retraites. Et puis à l'Institut Pasteur, des scientifiques s'intéressent à la vie miroir, une solution mais aussi un danger pour la science.
Après le journal, le regard de Christian Macarian sur les attaques d'Israël sur l'Iran, le journal imprévisible d'Augustin Lefebvre et David Barou qui revient sur la taxe Zucman, aussi vite votée à l'Assemblée nationale, aussi vite retoquée par le Sénat. L'appel à la retenue de Donald Trump n'a pas fonctionné.
Appel lancé hier soir à Israël de renoncer à des frappes sur l'Iran pour éviter un conflit massif. Mais quelques heures après, 200 avions de combat ont visé cette nuit plusieurs sites militaires, la capitale, Téhéran, mais aussi et surtout une centrale d'enrichissement nucléaire dans le centre de l'Iran, à Natanz, que l'Iran utilise selon les Occidentaux pour se doter de l'armée nucléaire. Pierre Pilet, pourtant des négociations se tiennent en ce moment.
Donald Trump dit qu'il espère toujours des négociations après les frappes israéliennes de cette nuit. Un nouveau cycle de discussions indirectes est prévu à Oman ce dimanche. À ce stade, on ne sait pas si ces discussions sont maintenues. Des négociations reprises il y a 2 mois et qui sont dans l'impasse. L'Iran ne peut avoir la bombe nucléaire, déclare aussi le président américain. Ce matin, Israël dit avoir des informations montrant que Téhéran s'approche du point de non-retour concernant son programme nucléaire. L'Iran qui enrichit de l'uranium à 60% d'après l'Agence internationale de l'énergie atomique et se rapproche donc du seuil qui permet la fabrication d'une bombe atomique. Hier, l'Iran a annoncé la construction à venir d'un nouveau site d'enrichissement d'uranium et s'est dit déterminé à augmenter de manière significative sa production. En 2015, un accord a été conclu sur le nucléaire iranien, mais Donald Trump en a retiré les États-Unis en 2018 lors de son premier mandat à la Maison-Blanche.
Et les frappes ont tué le chef des gardiens de la Révolution, le chef d'état-major également. L'attaque est toujours en cours alors que l'Iran entame sa riposte et envoie une centaine de drones. L'Iran qui juge responsable les États-Unis de cette attaque israélienne. Immédiatement après les premières frappes, les cours du pétrole ont augmenté très fortement. Éric Mauban sur les indices de référence américains et européens, même si les dépôts sont épargnés selon l'Iran.
Effectivement, $75 pour le baril de pétrole WTI, 77 pour celui du Brent de la mer du Nord, soit une hausse de 12% en quelques heures. L'envolée est aussi brutale que spectaculaire. Elle résulte du fait que l'Iran figure parmi les 10 plus grands producteurs de pétrole au monde. La communauté financière redoute une riposte iranienne. L'une d'entre elles pourrait prendre la forme d'une fermeture du détroit d'Ormuz. Elle pourrait affecter 20% des flux pétroliers mondiaux. Les investisseurs placent donc leur argent sur les valeurs refuges comme l'or, le yen japonais ou le franc suisse. Le dollar, en revanche, est délaissé et les marchés financiers asiatiques perdent ce matin un peu plus d'1%.
Éric Mauban et par ailleurs Israël a déclenché l'état d'alerte, a fermé son espace aérien tout comme l'Irak et la Jordanie. L'ancien ambassadeur de France en Israël, Éric Danon, est notre invité ce matin sur Radio Classique à 8h15. Aux États-Unis, un revers judiciaire pour Donald Trump. Un juge fédéral considère illégal le déploiement de la garde républicaine en Californie, décidé par le président après les manifestations à Los Angeles où le calme revient. L'application de la décision est suspendue jusqu'à aujourd'hui. L'administration va faire appel.
Vous écoutez Radio Classique, il est 7h33 en France. C'est la dernière ligne droite des négociations sur les retraites.
Entre le patronat et les syndicats qui doivent proposer des mesures d'ici mardi pour résorber le déficit et améliorer la dernière réforme. Une négociation que certains syndicats ont quittée. Les autres, pour trouver un compromis, ont reculé sur un retour sur l'âge de départ Zoé Pallier.
Ça ne fait plus partie des discussions, reconnaît la négociatrice de la CFE-CGC. Certes, les syndicats réclament toujours, je cite, un bouger sur l'âge, mais ça ne veut pas forcément dire revenir sur les 64 ans. Ça pourrait concerner plutôt l'âge d'annulation de la décote, c'est-à-dire celui à partir duquel un salarié part en retraite à taux plein, même s'il n'a pas validé tous ses trimestres. Cet âge-là pourrait passer de 67 à 66 ans, mais le patronat n'est pas convaincu par cette mesure qui coûterait 1,2 milliard d'euros à horizon 2030. La CPME propose plutôt une visite médicale à 59 ans pour les salariés exposés à des risques d'usure et en cas d'inaptitude, un départ anticipé en retraite à partir de 61 ans. Dans tous les cas, la grande inconnue reste celle du financement qui sera mis à contribution entre les retraités, les salariés et les entreprises. On n'a toujours pas trouvé les 6,5 milliards d'euros qu'on nous demande, soupire une négociatrice.
Les explications de Zoé Pallier.
C'est un colloque très particulier qui se tient à Paris en ce moment même.
Sur la vie miroir, il réunit biologistes, immunologues, mais aussi juristes et philosophes. À l'Institut Pasteur, il travaille sur la synthèse de nouvelles molécules appelées miroirs. Rémi Pfister, c'est un progrès scientifique qui n'est pas sans danger.
Dans notre monde, la vie est basée sur des molécules gauches ou droites, comme des mains. Les acides aminés sont par exemple tous gauchers, les sucres droitiers. Mais pour les scientifiques, rien n'empêcherait qu'une autre forme de vie fonctionne à l'inverse. C'est ce qu'on appelle une vie miroir. Créée de toutes pièces en laboratoire, ces nouvelles molécules pourraient offrir de nombreuses possibilités, comme l'élaboration de médicaments plus résistants, explique David Bicard, chercheur en biologie de synthèse à l'Institut Pasteur.
Alors il y a un intérêt, des protéines miroirs ont des propriétés pharmacologiques très intéressantes, justement parce qu'elles sont de l'autre côté du miroir, elles ne vont pas être reconnues par les enzymes de notre corps qui naturellement vont dégrader ce type de médicament.
Le risque serait d'aller trop loin dans la recherche jusqu'à créer des bactéries miroirs complètement artificielles et qui pourraient vite devenir hors de contrôle, prévient Hervé Schneves, président du comité d'éthique de l'INSERM.
Elles auraient comme une cape d'invisibilité, elles échapperaient au système immunitaire. Il n'y aurait aucun prédateur parce que les micro-organismes aujourd'hui qui mangent les bactéries, bien là aussi, ça serait invisible. Et donc, au bout du compte, ces bactéries se multiplieraient, comme les espèces invasives qui ravagent des écosystèmes.
Créer une bactérie miroir est encore impossible techniquement. Il faudrait des décennies et des milliards d'investissements. Mais au vu de la menace, les scientifiques du monde entier souhaitent réguler cette technologie dès maintenant, en créant un organisme de contrôle qui surveillerait certaines recherches qui s'y penchent d'un peu trop près.
Et puis le Conseil constitutionnel a validé la loi narcotrafic. Seuls quelques articles sont censurés, mais la création de quartiers de haute sécurité est validée. Les prisons réservées aux narcotrafiquants les plus dangereux. Et puis je vous rappelle la principale information de ce journal, l'attaque toujours en cours d'Israël en Iran. Des frappes sur la capitale Téhéran, sur des sites militaires et nucléaires. Les chefs des gardiens de la révolution et le chef d'état-major iranien sont morts. L'Iran envoie une centaine de drôles en riposte vers Israël.
Et on y revient dans un instant avec Christian Macarian dans l'écho du monde. Merci Charles, à tout à l'heure pour le rappel des titres Radio Classique, il est 7h37.
Rouler en électrique ou hybride? Ok. Avec la qualité allemande? Évidemment. Et sans dépasser son budget? Toujours. Avec Opel, vous cochez toutes les cases. Pendant les portes ouvertes, Opel vous offre jusqu'à 8 000 € d'avantages clients sur une sélection de véhicules disponibles immédiatement. Alors n'attendez plus, rendez-vous chez votre concessionnaire Opel. 8 000 € se composant d'une remise sur le prix d'une Opel Astra hybride rechargeable neuve et d'une prime reprise. Offre à particulier sur véhicule en stock jusqu'au 24 juin dans le réseau participant. Détails sur opel.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Les plus belles choses arrivent souvent à la dernière minute, comme le but décisif du match. Ou cette offre qui te change l'été.
Costa vous sauve à la dernière minute. Réservez votre croisière d'été de 8 jours à partir de 699 € par personne. Dépêchez-vous, c'est jusqu'au 30 juin. Info en agence ou sur costacroisiere.fr. Costa.
Dans les
années 60, la France construisait un avenir plus ouvert. Révolution musicale, conquête spatiale, émancipation des femmes. En 2025, Renault remet la liberté sur la route avec nouvelle Renault 4. Design emblématique, habitabilité légendaire, désormais 100% électrique et ultra connecté. Découvrez Renault 4 E-Tech électrique, borne de recharge offerte. Portes ouvertes du 12 au 16 juin. Valeur borne 990€ hors taxe, hors installation pour forfait borne plus installation. Offre à particulier du 1er au 30 juin. Conditions Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Dans son nouveau hors-série, Le Parisien vous invite à remonter le temps jusqu'au Paris antique, Lutèce. Grâce à l'accès privilégié offert par le pôle archéologique de Paris, plongez dans l'histoire de la ville et découvrez le quotidien des habitants au 1er siècle de notre ère. Vivre à Paris au temps des Romains, un hors-série Le Parisien chez votre marchand de journaux.
Dans un instant, Christian Macarian, l'écho du monde, on revient évidemment sur l'opération Rising Lion de cette nuit, Israël contre l'Iran.
De prime abord, personne ne déprime à l'idée de recevoir une prime. En prime, une prime, c'est une bonne nouvelle.
En ce moment, chez Nissan, la très bonne nouvelle, c'est la prime à l'hybride jusqu'à 7000 euros. Oui, 7000 euros. Pendant les jours hybrides Nissan, ne manquez pas cette prime exceptionnelle sur tous les crossovers hybrides Nissan Juke, Qashqai et X-Trail. Rendez-vous vite en concession Nissan pour en profiter.
Nissan.
Remis jusqu'à 4000 euros sur Juke Hybrid, 5000 euros sur Qashqai et 7000 euros sur X-Trail 9, identifié en stock jusqu'au 30 juin par rapport au prix au 1er mars. Détail Nissan.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et Christian Macarion à 7h40 pour l'écho du monde. Bonjour Christian.
Bonjour David.
L'écho du monde ce matin, c'est l'attaque cette nuit d'Israël contre l'Iran, contre des sites nucléaires. C'est deux grands hauts responsables iraniens tués dans la foulée, si j'ose dire. Le chef des gardiens de la révolution et le chef d'état-major. Christian, c'est une opération soudaine, mais prévue de longue date.
Soudaine, mais prévue de longue date et qui fait suite à toute une série d'attaques l'an dernier qu'il ne faut pas oublier, car le plan d'Israël, le plan de Benjamin Netanyahou et de son état-major est de longue haleine, évidemment. L'an dernier, Israël a détruit une capacité de riposte, et en tout cas majoritairement les capacités aériennes de l'Iran. On s'en souvient, il y a eu deux vagues d'attaques en avril 2024 et puis en octobre 2024. L'Iran a aussi attaqué Israël. Israël a répliqué. Il y a eu une très forte destruction de l'appareil de riposte iranien. Donc aujourd'hui, attaquer l'Iran, c'est agir dans un terrain préparé, sur un terrain préparé, largement préparé par Israël l'an dernier. Et la façon dont Israël a frappé est en revanche extrêmement saisissante. Parce qu'Israël a frappé un site, celui de Natanz, enfoui en profondeur sous un dôme de béton de 20, recouvert lui-même de 22 mètres de terre. C'est un complexe maintenant assez connu, qui est presque devenu mythique. Il a fallu des bombes très spéciales que seuls les États-Unis fournissent pour perforer le dôme de béton et atteindre les installations. Ce site est un des deux sites secrets avec Fordow qui abrite les centrifugeuses iraniennes qui permettent d'enrichir l'uranium à un taux de 60%, c'est-à-dire très près du taux de production de la bombe, qui est à 90%. Tout cela, Iran le fait en contravention complète avec les accords qu'il a passés à l'AIEA.
Alors l'année dernière, quand on évoquait la possibilité de frappe sur les sites nucléaires, beaucoup d'experts disaient « c'est délicat, c'est compliqué, ça s'improvise pas ». Et effectivement, ce sont des sites enterrés, compliqués à atteindre. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est le contexte.
Alors, le contexte.
Ces frappes interviennent au moment où les États-Unis et l'Iran s'étaient rapprochés pour négocier justement un accord sur le nucléaire iranien. Les États-Unis ayant quitté cet accord il y a quelques années et revenant ipso facto à la recherche d'un accord.
Alors le background, ce qu'il faut garder en mémoire, c'est qu'en 2015, l'accord qui avait été négocié très durement par l'administration Obama et l'Iran a été rayé d'un trait de plume par Donald Trump. Donc l'Iran s'est jeté dessus, sur cette opportunité, pour reproduire précisément de l'uranium enrichi à des taux qui étaient jusque-là interdits. Bon. Et Donald Trump sort de cette attaque d'hier, qui est toujours en cours, hein, il faut toujours le rappeler, de façon assez peu honorable. Puisque hier encore, Donald Trump certes, reconnaissait qu'un scénario militaire était possible. Il avait déclaré qu'une frappe israélienne contre l'Iran, je cite, « pourrait très bien se produire », mais il avait aussi dit, dans la même déclaration, « je ne veux pas qu'ils interviennent », autrement dit les Israéliens, « je ne veux pas qu'ils interviennent parce que je pense que ça ferait tout capoter ». Capoter quoi ? Eh bien, les négociations qui sont en cours avec les Iraniens sur leur programme nucléaire, dont un sixième cycle a été annoncé pour dimanche à Mascate, sous médiation omanaise.
Il est donc pas mis devant le fait accompli, mais presque. Quelle va être la riposte de l'Iran ? L'Iran a-t-elle les moyens de frapper aussi fort qu'elle a été frappée ?
Alors, Israël a frappé à trois niveaux. D'abord, l'arme idéologique du régime, qui est les gardiens de la révolution, en liquidant son chef. Puis, le chef d'état-major, donc l'arme militaire, et puis l'arme nucléaire en cours d'élaboration. On en a parlé. Il ne reste pas beaucoup de capacité de riposte à l'Iran, mais l'Iran sait, hélas, être assez créatif en la matière.
Christian Macarian pour l'Écho du Monde, et évidemment, on reparlera de cette attaque Rising Lion d'Israël sur l'Iran avec l'invité de 8h15, Éric Danon, ancien ambassadeur de France à Tel Aviv. Tout de suite, le journal imprévisible avec Augustin Lefebvre. Donald Trump organise demain aux États-Unis un défilé militaire. Ça inspire Augustin Lefebvre.
Et si chaque voyage devenait extraordinaire ?
DS Automobile présente
le Week-end DS Collection Jules Verne. Du vendredi 13 au dimanche 15 juin, embarquez dans un univers avant-gardiste à bord de DS7 Collection Jules Verne. Profitez de ses technologies de pointe comme la conduite semi-autonome DS Drive Assist et succombez à ses finitions haut de gamme. Prenez rendez-vous en DS Store sur dsautomobile.fr.
DS Automobile.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Françoise, donatrice à la Fondation du patrimoine.
Notre patrimoine est en danger. Nos églises, nos petits théâtres, nos moulins, nos lavoirs disparaissent de nos paysages. Alors pour que nos enfants connaissent ces merveilles, j'ai fait un legs à la Fondation du patrimoine. J'aide ainsi son réseau de bénévoles, partout en France, à sauver cet héritage. Témoin de notre histoire.
Contactez la Fondation du patrimoine au 09 80 80 99 98 ou sur fondation-patrimoine.org.
Que diriez-vous d'une petite pause musicale en bord de mer ? Radio Classique et les Thermes Marins de Saint-Malo vous invitent à 5 jours de détente. Laissez-vous tenter par les bienfaits de la thalassothérapie et profitez de soirées musicales en compagnie d'Ève Ruggieri et d'artistes d'exception. La Thalasso Musicale Radio Classique du 23 au 28 novembre au Terme Marin de Saint-Malo. Réservation au 02 99 40 75 00 ou sur thalasso-saintmalo.com.
Vous n'étiez pas passé à l'électrique. Vous n'aviez pas encore essayé la voiture mondiale de l'année. Nouveau Kia EV3, jusqu'à 605 km d'autonomie. À partir de 357 euros par mois, jusqu'au 30 juin, sans apport.
Kia EV3 autonomie standard hors option. LLD 49 mois, 40 000 km. 49 loyers de 357 euros TTC hors assurance facultative. Offre particulier si accord Kia Finance. Cycle WLTP sur version 81,4 kWh. Conditions sur kia.fr. Pensez à covoiturer.
Kia. Du mouvement via l'inspiration.
Radio Classique, le journal imprévisible.
Bonjour Augustin Lefebvre.
Bonjour David, bonjour à tous.
Cet hymne américain va retentir demain à Washington. Le président Donald Trump a enfin sa parade militaire.
Défilé d'ampleur pour célébrer les 250 ans de l'armée de terre qui, coïncidence, tombe le même jour que les 79 ans de Donald Trump. Enfin donc, doit-il se dire, après des tentatives avortées pendant son premier mandat, car cette idée, il l'a en tête depuis le 14 juillet 2017.
Ça me rappelle quelque chose.
La garde républicaine qui joue Daft Punk, place de la Concorde, Emmanuel Macron et Donald Trump assis côte à côte, la mèche de Trump flotte au vent comme si elle battait la mesure.
Ouf.
Il revient aux États-Unis, il est impressionné.
C'était l'un des plus beaux défilés que j'ai jamais vu. Quand je suis rentré, un de mes premiers appels a été pour voir si on pouvait organiser ça chez nous. Je pense que le 4 juillet, on va faire une grande parade pour montrer notre force militaire.
Et voilà, c'est fait le 14 juin, défilé. Filé très critiqué par les opposants de Trump et se pose la question, à quoi sert un défilé militaire aujourd'hui ? En Europe, ils sont issus de la tradition historique, ou alors ils commémorent un moment important de la construction nationale. En Asie, ils peuvent servir à montrer les muscles. Chine 2015.
Les attachés militaires occidentaux ont été particulièrement intéressés par les multiples batteries de missiles dont dispose maintenant la Chine, et surtout celle-ci, les DF-21, fusées balistiques réputées tueuses de porte-avions. Vladimir Poutine, hôte d'honneur, apprécie.
Et là, on a en tête les images de milliers de soldats défilant au cordeau. C'est aussi le cas en Corée du Nord. Mais là, ce qu'on entend, c'est en Corée du Sud. En 2023 et 2024, le pays a lui aussi organisé un défilé pour tenter d'impressionner son voisin. Mais rien qu'à l'oreille, on sent qu'il y a moins d'envergure. Bon, parfois, la démonstration de force est aussi destinée à des opposants politiques. En 2021, le président d'extrême droite du Brésil, Jair Bolsonaro, fait défiler des chars à quelques pas du Parlement, une première.
La cérémonie militaire s'est tenue le même jour que le vote à la Chambre des députés sur la réforme du système électoral voulu par Bolsonaro, ce qui a suscité des critiques. Le président de la Chambre parle de coïncidence tragique, tandis que certains députés qualifient cette utilisation des forces armées d'intimidation du Parlement.
Un épisode qui préfigure la suite. Un peu moins d'un an et demi après, les partisans de Bolsonaro envahiront les lieux de pouvoir brésiliens.
Mon Dieu !
Autre grand spécialiste du défilé militaire, la Russie. La liste des invités à ces cérémonies, c'est un bon baromètre des relations diplomatiques. Qui imagine aujourd'hui ce qui s'était passé en mai 2010 ?
Sur la place Rouge de Moscou, des soldats français défilent parmi les Russes. Une image inédite, c'est la première fois que la Russie invite les alliés à commémorer la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le grand jour, c'est dimanche. En attendant, les soldats répètent et l'émotion est déjà là.
Et les frissons qui s'emparent de... On ne peut pas maîtriser. L'émotion, elle apparaît partout, on est tremblant, mais c'est extraordinaire.
Et oui, des soldats français sur la place Rouge. L'Ukraine aussi était invitée. Bon, dernière fonction de ces défilés, c'est évident, mais il ne faut pas l'oublier, ce sont des spectacles. Et dans ce domaine, je crois que l'Inde est championne du monde.
Parmi les différents régiments des forces armées indiennes, un contingent se démarque. Les forces de sécurité de la frontière à dos de dromadaire. L'unité doit parcourir 6,9 km en parfaite formation. La qualité du spectacle repose sur la sélection des dromadaires et des cavaliers qui prennent part au plus important défilé du pays.
Attention toutefois à ne pas verser dans le comique. L'Inde propose aussi des exercices d'équilibriste à moto. Et sur internet, un petit plaisantin a collé les images avec l'entrée des gladiateurs de Futsik. Ça a fait 800 000 vues, rien que ça. Bon, n'y voyez aucun lien avec la musique, mais je tenais à conclure avec cette proposition de l'écologiste Eva Joly en 2011.
Aujourd'hui, j'aimerais mieux que nos valeurs communes soient incarnées un 14 juillet par un défilé citoyen. J'aimerais voir dans nos rues les enfants de France.
Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne.
Les réactions avaient été unanimement négatives et c'est peut-être la preuve que les défilés militaires ne sont pas des anachronismes aujourd'hui.
Et moi, j'attends de voir les dromadaires d'élite de l'Inde sélectionnés pour défiler en cadence et de façon harmonieuse. Augustin Lefebvre, soldat de première classe du journal Imprévisible, tous les vendredis à 7h45. Bon week-end, Augustin. Dans un instant, David Barou et la taxe Zucman qui n'a pas fait long feu. Radio Classique, 7h52.
Cabinet de management de transition, Delville Management accompagne ses clients de manière responsable et durable dans leur transformation à forts enjeux stratégiques. Les managers de transition de Delville Management interviennent dans des situations d'urgence dans le cadre de missions ponctuelles. Et avec Delville Management, retrouvez les entreprises engagées en action chaque vendredi avec Fabrice Lundy dans la matinale de Radio Classique.
Le Figaro hors-série romantique la légende des siècles. Elle a défié les empires, conquis la Méditerranée. Du Capitole au Colisée, des catacombes aux basiliques, Le Figaro hors-série célèbre la Rome antique en une promenade époustouflante à travers le temps. Le Figaro hors-série, Rome antique, la légende des siècles, en vente chez votre marchand de journaux.
16 millions, c'est l'équivalent de la population de Paris, Bordeaux et Lyon réunis.
c'est aussi le nombre de personnes dans le monde qui ont choisi Renault Clio depuis 1990. Et ce nombre continue d'augmenter, puisque Clio est la voiture la plus vendue en France en 2024. Renault Clio Génération est en édition limitée des 16 900 euros. Portes ouvertes du 12 au 16 juin.
Source Renault, immatriculation mondiale de 1990 à 2024. Source 3 ADATA, janvier 2025. Clio Génération SCE, 65 euros option. Offre à particulier du 1er au 30 juin selon stock disponible. Voir Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Lors d'une succession, on découvre des objets accumulés pendant toute une vie. Des trésors dont on ignore que faire. C'est là que Maison Philippe entre en scène.
Ils se sont déplacés, ont estimé avec soin chaque bibelot, objet chinois, livre, tableau, sac à main, argenterie, montre, bijoux en or, même cassé. Et ils ont tout débarrassé. Plus de tracas. Maison Philippe a tout pris en charge et a payé comptant.
Contactez Maison Philippe Antiquité Raspail au 06 07 58 23 23. 106 boulevard Raspail, Paris 6e, métro Notre-Dame-des-Champs.
Les ETI sont essentielles dans la transformation durable de nos vies. Comment ? Réponse avec Grâce à nos ETI, chaque mardi à 7h29 avec Fabrice Lundy sur Radio Classique. Un programme proposé par KPMG, cabinet leader de l'audit et du conseil en France, engagé à agir pour une nouvelle prospérité plus durable et responsable.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et David Barou à 7h54 pour le décryptage de l'économie. Bonjour David.
Bonjour David.
Décryptage fiscal aujourd'hui. Oui. Le Sénat a retoqué hier l'idée de la taxe Zuckmann, devenue un fétiche pour la gauche, un repoussoir pour la droite et une hérésie pour le monde des affaires. Mais l'idée de taxer lourdement les ménages, les plus aisés, fait de la résistance, dites-vous.
Bah oui, en février, l'Assemblée avait adopté une proposition de loi visant à instaurer un impôt plancher s'élevant à 2% du patrimoine des ménages, c'est vrai, au-dessus seulement de 100 millions. Une sorte de néo-ISF inspiré par l'économiste Gabriel Zuckmann. Mais à la différence de l'ex-impôt sur la fortune que le monde entier ne nous enviait pas, Zuckmann rêve de n'accorder aucune dérogation pour les biens professionnels. Avant, on taxait les propriétaires de biens immobiliers. Aujourd'hui ou demain, on voudrait taxer les entrepreneurs qui réussissent. Les sénateurs ont rejeté hier cette idée, heureusement, mais elle n'est pas définitivement enterrée et je trouve cela très dangereux.
Alors, en quoi l'idée de cette énième ponction à la française est-elle dangereuse ?
Même si je suis malheureusement pas trop concerné car j'ai pas encore 100 millions, je trouve que taxer le patrimoine, c'est à la fois injuste, complexe et contre-productif. C'est injuste parce que le patrimoine, c'est bien sûr en partie lié à l'héritage, mais c'est surtout lié à la richesse qu'on a pu se constituer au cours de sa vie professionnelle. Et quand on gagne de l'argent, et ben vous le savez, on a déjà payé des impôts et des charges sociales. Ensuite, cela s'annonce terriblement complexe. Comment évalue-t-on la fortune ? Pour une entreprise cotée en bourse, on peut regarder la capitalisation boursière, vous me direz. Mais pour une start-up ou une PME non cotée, on fait comment ? Si on prend le cours de l'action, il faut aussi avoir en tête que les cours, ça monte, mais parfois ça descend. Si la capitalisation flambe, on paye plus, bravo. Mais si elle baisse, on fait quoi ? On vous rembourse ? Bien sûr que non. On peut aussi avoir une belle start-up comme Mistral AI, dont je vous parlais hier, qui n'a pas encore gagné le moindre euro, mais qui est valorisé plus d'un milliard. Et donc, les fondateurs devraient payer, même si leur entreprise ne gagne jamais d'argent. Et puis enfin, ce serait contre-productif, car on le sait bien, l'ISF poussait de nombreuses familles à s'exiler. Alors aujourd'hui, on nous dira que c'est pas facile de quitter la France. Pour la classe moyenne supérieure, certes, mais pour les 2000 familles les plus riches de France, en fait, c'est super facile. Si on vous prend 2% de votre patrimoine tous les ans, je vous le dis, vous allez forcément partir, parce que à la rigueur, 2% une fois, bien sûr, ce n'est pas la fin du monde. Mais 2% tous les ans, même si on est nul en maths, il faut quand même avoir en tête que ça fait 20% en disant « Et alors là, à ce rythme-là, il faudra vendre son entreprise pour payer ses impôts. » Au final, on a donc un risque que cela fasse fuir les riches et les entrepreneurs, et du coup, la taxe ne rapportera pas les milliards tant espérés.
Elle est donc un non-sens fiscal et économique.
Juste pendant la semaine de Vivatech, quand on dit aux jeunes « innover, lancer des entreprises, prenez des risques », on ne peut pas en même temps leur dire « mais si vous réussissez, on vous prendra votre argent ». La France est déjà la championne du monde des prélèvements fiscaux. On le sait, on n'a pas besoin de taxer plus les très riches comme les moins riches. On a surtout besoin de faire croître notre économie et de dépenser mieux l'argent public. On n'a pas besoin de moins de millionnaires, mais de plus. Parce qu'en plus, quand les riches ont de l'argent, vous savez quoi ? Ils investissent et souvent, ils le font bien mieux que l'État.
David Barou pour le décryptage qui s'écoute aussi en ligne sur radioclassique.fr. Très bon week-end à vous, David Barou. Et maintenant, Franck Ferrand, 2 minutes d'histoire. C'est le point du jour. Il est 7h57. Bonjour Franck.
Bonjour David, bonjour à tous.
Nous sommes le 13 juin 2025, mais
oui.
Où ?
D'où nous parlez-vous ?
Alors moi je vous parle de Milan, le 13 juin 313, jour de la promulgation de l'édit de Milan par l'empereur Constantin et par Licinius, qui était son collègue au sens propre du terme, il co-gouvernait l'Empire. C'est vrai qu'il a remporté la victoire du point Milvius sur son rival Maxence Constantin, et il en profite pour promulguer donc cet édit de tolérance par lequel il légalise le christianisme. C'est tout à fait essentiel en termes historiques. Hein. 10 ans après les persécutions initiées par l'empereur Dioclétien, c'est donc l'autorisation de pratiquer le culte chrétien. Alors, il faut vous dire que déjà sur son lit de mort, l'empereur Galère, 2 ans plus tôt, avait autorisé ce culte. Pour l'anecdote, l'édit de Milan n'existe pas vraiment. Je vous explique, ce qu'on appelle l'édit de Milan repose sur 2 lettres adressées durant l'été 313 à des autorités romaines orientales. Aucune ne mentionne le moindre édit. L'idée est quand même là. Un terme est mis aux persécutions, les interdits qui pesaient sur les chrétiens sont levés, les églises locales se voient restituer leurs biens et leurs reliques, etc. Bref, tout va assez vite, le christianisme va prendre son essor et gagner du terrain dans toutes les couches de la société. C'est ça qui compte et c'est ce qu'il faut retenir. Donc, 13 juin 313.
Et en quelques décennies, le christianisme va s'imposer comme la seule religion officielle de l'Empire.
Alors c'est ça, vous savez que sur son lit de mort, Constantin sera baptisé par l'évêque Eusèbe de Nicomédie. Et il n'y a pas lieu de s'étonner de ce baptême tardif, puisque dans l'Antiquité, le baptême concernait les adultes, les gens qui voulaient vraiment mener une vie morale et pieuse au service du Christ. Bon, là, Constantin se fait baptiser et quelques décennies plus tard, non seulement le christianisme sera autorisé dans l'Empire, mais il deviendra la religion officielle de l'Empire. C'est un basculement absolument essentiel dans l'histoire de l'Europe.
Et vous retrouvez Franck Ferrand en plus long, un peu après 9h.